Saint-Jean, qui s'appelle Lindarfial. Et ils ont donné le hockey à un sauteur en longueur japonais. Les Japonais sont particulièrement doués dans le saut à ski en longueur. Il s'appelle Ryoku Kobayashi. Et ce dernier, ça a été filmé, évidemment, Red Bull, qui sont les champions de l'effet visuel. Alors, ils ont mis les pilotes de drones qui suivent les Formule 1. Ils l'ont fait suivre Kobayashi, qui s'était lancé sur cette immense piste d'envol. Et il a fait un saut de près de 300 mètres de long. C'est vraiment spectaculaire parce que, à un moment donné,
300 mètres, tu voles.
Il était vraiment haut dans les airs. Normalement, ils suivent un peu la pente en trajectoire, les sauteurs en longueur, mais il s'est retrouvé pratiquement avec un élan de vent qui l'a soulevé un peu plus haut, et ça donne quand même une certaine frousse. 291 mètres pour être plus précis. Il voulait aller atteindre le 300 mètres, mais maintenant, il a dit c'est assez, il a fait plusieurs essais. Et la FIS a quand même souligné dans son site web que ce saut magique avait été fait, mais le record ne sera pas homologué parce que les contemporains s'exécutent sur des tremplins qui, eux, ont des normes très strictes à respecter. Et ces normes n'étaient pas, même si la sécurité était mise de l'avant, c'était pas les mêmes normes qu'on retrouve en temps normal.
Hey, 291 mètres.
Ouais, c'est long parce que, mais tout de même, en temps normal, là, c'est 253 mètres les plus hauts sauts chez les hommes.
Attends, ça, moi, je crois que à peu près.
Non, ouais, c'est impressionnant. Des fois, ils atterrissent presque dans la cuillère au moment où il n'y a presque plus de pente. Et ça, c'est dangereux. Il faut toujours atterrir dans la pente pour amortir.
Oui.
Luc, j'avais déjà parlé de la vague géante de Nazaré au Portugal. Oui. Ben, imagine-toi donc qu'il y a un record qui a été homologué. C'est un Allemand, il s'appelle Sébastien Störner, il a 39 ans. Il vient de Bavière, il vient pas du tout du bord de mer, mais il a déménagé à Hawaï aux alentours de 18 ans, quand même assez tard, pour apprendre à faire du surf. Il est devenu un surfeur, donc, de grosses vagues. Il y a eu beaucoup de tempêtes dans l'Atlantique Nord cet hiver. Il y a eu beaucoup d'épisodes de vagues géantes à Nazaré. Imagine-toi donc qu'il s'était lancé sur une vague qui a été mesurée à près de 30 mètres, soit 28 mètres 57 de haut. C'est 94 pieds comme vague. C'est l'équivalent d'un immeuble de 9 étages. Alors, il avait le précédent record du monde à 26 mètres et là, il l'a amené à 28 mètres. L'ironie, c'est que il a travaillé avec la compagnie de voitures Porsche pour se créer une planche plus aérodynamique qui est capable de fendre l'eau plus rapidement. Parce que, évidemment, c'est impressionnant, la grosseur des vagues, mais
quand
imaginez,
tu dis la hauteur d'un immeuble de 9 étages, là, c'est de l'eau en masse, là.
Oui, puis cette vague-là, elle casse. Alors, c'est pas une houle, elle casse et elle fait un tourbillon épouvantable. Donc, imaginez la masse. Quand on sait que
c'est inouï.
Un mètre cube d'eau pèse une tonne, alors ça peut être drôlement impressionnant.
Est-ce que je me suis tout le temps demandé, moi, mettons qu'il est ramassé par la vague, ça prend du souffle en Simonac?
C'est impressionnant. Il s'entraîne pour ça, mais quand même, lorsqu'il tombe dans la machine à laver, là, le bouillon de la vague comme tel, ils peuvent rester des minutes sous l'eau, ce qui est quand même très épeurant. Ils ont beau avoir des jet skis qui les suivent pour les lancer dans les vagues, parce qu'ils n'arrivent pas, à pédaler avec leurs bras assez vite pour pouvoir amorcer la vague. Mais pour sortir également, quand ils sont dans ce bouillon, c'est excessivement difficile et les jet skis n'arrivent pas toujours au premier coup. Hein. Alors, ils peuvent aller au fond à quelques reprises. Et cette planche, justement, permet de faire passer la vitesse de au-dessus de 70 km/h, parce que la vague, elle défile à près de 80 km/h. Alors, ils vont maintenant, c'est un genre de planche qui peut aller jusqu'à 100 km/h de vitesse pure, mais dans les conditions parfaites, l'eau est très lisse, mais dans une vague avec le vent, la déferlante, c'est jamais très lisse. Alors, c'est littéralement toujours très chaotique en descendant, parce qu'ils descendent une pente évidemment épouvantable là, dans cette pente de l'équivalent d'un immeuble de 9 étages. Vous pouvez retrouver assez facilement le vidéo là sur vos plateformes vidéo favorites. C'est drôlement impressionnant.
La méga vague de Nazaré.
Ouais. Et je termine rapidement avec une petite nouvelle de golf, juste pour vous donner un ordre de perspective. Tu sais, quand on parle de golf, on parle toujours de Tiger Woods. On se dit, mais pourquoi on parle toujours de Tiger Woods? Oui, il a été dominant pendant très longtemps, mais maintenant, il est beaucoup diminué, entre autres, dû à ses petits accidents. Ben, Scottie Scheffler, le gagnant de Augusta, il est numéro 1 depuis 73 semaines, mais s'il voulait égaler le record de Tiger Woods, il faudrait qu'il continue à être numéro 1 jusqu'au 21 octobre 2035.
Oh!
Alors, ça donne une perspective maintenant de l'ampleur du talent et de la marque qu'a créé Tiger Woods dans le monde du golf.
Jean-Luc Brassard, merci beaucoup. Bon, là, on a Louis Lacroix, chef du bureau politique, qui va nous parler des réactions de Geneviève, du premier ministre, au propos de Geneviève Guilbeault. On le passe avant ou après la pause? Louis, t'es là?
Oui, je suis là.
Bon, super. Alors, comment le premier ministre a-t-il réussi à défendre les propos de Geneviève Guilbeault?
Bon, en fait, il faut revenir en arrière. Là, hier, lors de l'étude des crédits, Geneviève Guilbeault a dit que la gestion des sociétés de transport et du transport collectif, ce n'était pas une mission de l'État, ça revenait aux municipalités. Alors, évidemment, ça n'a pas plu aux maires et mairesses, n'est-ce pas, du Québec, qui sont aux prises avec des déficits d'opération dans leur société de transport en commun. Et donc, ces propos-là ont été décriés un peu partout ce matin, et par les oppositions, mais aussi par les maires, Valérie Plante, entre autres, et Bruno Marchand à Québec, qui a même dit là que lui n'avait plus confiance en Geneviève Guilbeault et que pour le développement du transport en commun et de projets de transport collectif, il voulait s'adresser directement à François Legault. Alors aujourd'hui, ça tombait bien, il y avait une annonce là qui se passait au séminaire de Québec pour le nouveau Musée national de l'histoire du Québec. Et puis, ben comme ça se passait à Québec, le maire Marchand était là. Alors quand on a posé la question au maire Marchand, à François Legault, comment il réagissait aux propos du maire Marchand, ben Monsieur Legault a commencé par dire, ben là, on va regarder en avant et pas en arrière. Mais par la suite, il a défendu Geneviève Guilbeault en disant qu'il avait toujours confiance en elle. Et il a dit que la responsabilité du gouvernement, c'était d'investir dans les infrastructures de transport collectif, mais pas dans la gestion. C'était pas le rôle de l'État de gérer les sociétés de transport collectif. Il a dit quand même que depuis que la CAQ est au pouvoir, le financement du provincial là, dans les réseaux de transport collectif est passé de 39 à 48 %. Bon, ça c'est un bout, mais par la suite, quand on a poussé un petit peu plus loin, puis qu'on l'a confronté aux propos de Mme Plante notamment, et puis des villes qui veulent avoir davantage d'argent pour financer leur société, ben M. Legault a dit, a rappelé en fait que les employés des municipalités gagnent 30 % plus cher que les employés de la fonction publique québécoise. Et là, par la suite, et ça, je pense que ça va faire jaser, M. Legault a dit que les maires, littéralement, étaient des quêteux. Je te le laisse entendre.
Je comprends, par contre, que les maires voudraient avoir plus d'argent du gouvernement du Québec. Je tombe pas sur le derrière, là. Ça fait assez longtemps que je suis en politique pour savoir, les maires, c'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire un ménage dans leurs dépenses.
Alors, quand même, ça risque de faire jaser pas mal, parce que là, ben évidemment, il y a toute la question du financement. On sait que, historiquement, ce qu'on essayait de faire, c'était d'avoir un tiers, un tiers, un tiers pour le financement des sociétés de transport, un tiers des municipalités, un tiers du Québec, puis un tiers par les usagers. Mais depuis la pandémie, la part des usagers a baissé, et c'est pour ça que on demande davantage d'argent au gouvernement. Et là, ben en fait, de dire, finalement, que les villes sont des quêteux. Je suis pas sûr que Mme Plante va trouver cette réponse-là à son goût. On a essayé de poser la question à M. Marchand, qui a refusé de répondre aux questions des journalistes, justement, en réaction à ces propos-là.
Ouais, c'est trop chaud. Ouais. Merci beaucoup, Louis.
Ça fait plaisir. Au revoir.
C'est ce qui nous amène à la pause. Au retour de la pause, on parle de l'IVAC.
Ici Michel Turcotte.
Ici Pierre Michaud.
Ici Émile Clouet.
CFIX 93 mise plus que jamais sur la qualité de l'information pour bien desservir ses auditeurs. CFIX est présentement le média local et la radio locale privée qui compte le plus de journalistes dans sa salle des nouvelles. Michel Turcotte et Pierre Michaud dénichent et rapportent l'information locale et régionale. Émile Clouet, des informations sportives. CFIX fait un devoir de fournir à ses auditeurs une information juste et complète. Vous pouvez joindre le service des nouvelles à nouvelles@cfix.com.
Son X Plus Rimouski vous offre son kiosque de téléphone cellulaire Vidéotron avec des produits tels qu'iPhone, Motorola, TCL, Google et Samsung avec sa gamme S24. De plus, profitez des forfaits incluant une tonne de données par mois et une banque annuelle de données supplémentaires. Le tout à partir de seulement 35$ par mois plus taxes, appels et textos illimités au Canada. Certaines conditions s'appliquent. Détails en magasin au 150 Avenue Belle-Île ou au Son X Plus Rimouski.
Parce que nous tenons à nos clients, Alignement PMM t'invite à prendre rendez-vous pour préparer ton véhicule pour l'été. Que ce soit pour un changement d'huile, un alignement ou tout simplement pour une réparation. Alignement PMM est là pour toi. Des vieux pneus d'été fondus? Pas de problème, on en vend. On vend aussi des pièces de qualité. Parlant de qualité, celle de notre service n'est plus à faire. Prends rendez-vous dès maintenant. Alignement PMM. 418-722-6727. 418-722-6727.
Entrez dans l'ambiance chaleureuse du restaurant Union Pacifique de Rimouski. Découvrez une fusion unique de saveurs locales et internationales préparée avec passion par notre équipe de chefs talentueux. Des fruits de mer frais aux steaks savoureux, il y en a pour tous les goûts à l'Union Pacifique. Profitez d'un service attentionné dans un cadre élégant, parfait pour vos repas en famille, entre amis ou pour une soirée romantique. Réservez dès maintenant votre table et laissez-vous emporter par une expérience culinaire inoubliable au restaurant Union Pacifique de Rimouski, unionpacifique.com.
Envie de découvrir ou de redécouvrir les produits et services de vos entreprises coup de cœur? C'est au Salon des exposants Réseau VIP que ça se passe. Avec une trentaine d'entreprises, animations, prix de présence et entrée gratuite. Le 27 avril de midi à 16h à la salle Louis-Philippe Anctil de Lusville.
Rends tes journées plus agréables avec Formule Subaru. Du lever au coucher du soleil, la légendaire transmission intégrale du Ascent, Outback, Forester, Crosstrek, Solterra et Impreza te permettra d'être prêt à affronter toutes les situations. Fais-en l'essai chez Formule Subaru à Rimouski.
CFIX FM 93. Les faits, les vrais. Au réseau Cogeco, vous écoutez sans réserve. Sans réserve. Parce qu'il y a toujours une solution. Voici Luc Ferrandez.
Alors, il y a eu une réforme de l'IVAC qui a été importante. L'IVAC, c'est le régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est historique, là, parce que on a modifié. Avant, c'était à tout jamais. Et là, maintenant, on a mis un maximum, à ma connaissance, 3 ans. Pour en parler, Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Bonjour.
Bonjour, M. Ferrandez.
Bon, ça, c'est une situation inusitée. Hein. On a une réforme qui entraîne des conséquences énormes pour les usagers. Puis l'interface entre les usagers là, et la décision, ben, c'est un simple employé qui n'a pas beaucoup d'outils pour répondre aux plaintes, là, puis pour faire face à la détresse des gens.
Ben effectivement, dans un premier temps, lorsque la réforme s'en venait, on avait annoncé que les gens qui étaient déjà sur le régime, il y aurait comme une clause grand-père, entre guillemets, qu'on peut appeler. Donc, ces gens ne seraient pas touchés par la nouvelle réforme.
Ouais.
Donc, on arrive aujourd'hui et la clause grand-père n'est pas là. Donc, les gens qui sont indemnisés, qui s'étaient fait dire qu'ils seraient indemnisés à vie à ce moment-là, doivent tout recommencer, le pèlerinage nécessaire pour obtenir à ce moment-là un retour, avoir les informations, aller voir un médecin. On a déjà eu la difficulté à voir des médecins en temps régulier, donc de reprendre des rendez-vous pour ces gens-là pour se refaire diagnostiquer. Il y a plein d'embûches qui se font et qui s'amènent pour ces gens-là qui sont déjà marqués par des événements tragiques.
Mais c'est parce que
qui ont été témoins de ces événements-là.
Ben, tu sais, de retourner voir un psychologue ou un médecin, compte tenu du fait qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont tous vouloir y aller en même temps, ça va être très long, là.
Ben, ça va être un goulot d'étranglement. Puis ces gens-là, la réforme, elle s'applique dès cet automne, là. C'est sûr et certain que ces gens-là ne seront pas capables de le faire. Présentement, on n'est même pas capable de rejoindre toutes les personnes qui sont visées par ça pour les avertir, à moins qu'ils lisent, qu'ils reçoivent la lettre au bon endroit, puis ainsi de suite, puis qu'ils en prennent connaissance, puis qu'ils comprennent tout ce que ça implique aussi comme démarche à effectuer. Parce que même ces gens-là, il y en a de certaines, ces personnes-là qui ne peuvent plus travailler à vie. Donc, comment pouvoir aller prouver devant un psychologue ou un médecin que je ne suis plus capable de travailler alors que je ne travaille plus depuis déjà plusieurs années? Je ne peux pas lui dire, ben là, regarde, je ne suis plus capable de faire mon travail parce que j'étais déjà en arrêt de travail. Il va falloir qu'il se requalifie puis trouve une façon de se requalifier auprès d'un professionnel de la santé pour pouvoir continuer à avoir droit à ça. Sinon, on va tomber sur l'aide sociale. Ça crée un stress énorme chez ces gens-là et les gens que moi je représente, les membres qui travaillent à l'IVAC, qui répondent à ces gens-là, vivent un très grand stress. Ces gens-là sont là pour les aider et ils ne sont pas capables de le faire présentement.
Oui, parce que ce qu'on voit, là, ce qu'on entend, c'est que c'est assez touchant là quand même. Là. C'est des personnes qui sont... Alors, on parle pas des gens qui abusent du système, là, on parle des gens qui sont en véritable détresse, là, qui savent pas ce qui va leur arriver, ils perdent leur revenu dans quelques mois, là, tout leur revenu.
Tout à fait. Là, ces gens-là vont se retrouver devant rien. Et déjà, ces gens-là vivent une angoisse, un stress par rapport au traumatisme qu'ils ont vécu dans le passé. On en ajoute encore plus un autre avec ça. Et ils demandent aux gens chez nous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? Puis ces gens-là n'ont même pas de réponse à leur donner. Donc, c'est vraiment là très angoissant pour ces gens-là qui le vivent, qui ont vécu une situation que personne ne souhaiterait vivre.
Est-ce que vous suggérez qu'il y aurait dû y avoir plus d'étapisme dans l'application de la loi pour les gens qui reçoivent les fonds, puis aussi de préparation des employés?
Ben certainement. Là, nos gens chez nous sont encore en train de poser des questions sur certaines situations, sur certaines procédures, puis on n'a pas plus les réponses. Comment vous voulez, après ça, qu'on puisse aider des gens qui nous posent ces mêmes questions-là? Mmh. Donc, il y a vraiment une difficulté. On a au-dessus de 500 dossiers présentement en attente d'ouverture. On a plus de 1000 dossiers qui sont en attente de recevoir leur premier paiement. Il y a présentement, là, il y a personne qui peut être appelé quand il laisse un message en dedans de 3 jours. Vraiment, nos gens à l'interne, là, sont surchargés, sont vraiment, là, au bout du rouleau par rapport à ça. Même les gestionnaires demandent d'avoir de l'aide, d'avoir des ressources supplémentaires. Ils ne sont pas capables d'en avoir non plus. Donc, c'est pas, le problème ne vient pas des gens que je représente ou de leur gestionnaire immédiat. Vient de plus haut à ce moment-là.